Bonsoir. L'idéologie d'extrême droite conduit-elle à la violence? Le débat prend de l'ampleur 2 jours après l'attentat et la fusillade en Norvège. Débat surtout dans les pays où la droite nationaliste connaît un fort succès, et c'est le cas de la Suisse. Le spécialiste Jean-Yves Camus est avec nous pour une analyse de cet éventuel lien entre extrême droite et dérive criminelle. Et le débat ce soir dans Forum, d'abord avec l'un des UDC les plus actifs auprès de certains partis d'extrême droite nordique, Oscar Freisinger. Le socialiste Andy Gross, il connaît très bien d'ailleurs la Norvège, et le radical valaisan Leonard Binder, ils sont avec nous dans une poignée de minutes. En tous les cas, le Norvégien de 32 ans arrêté a reconnu les faits, il aurait agi seul et préparait son action depuis 2009. Juste avant de passer à l'acte, il a publié un manifeste de 1500 pages sur Internet, et c'est un scénario de plus en plus fréquent qui pose bien sûr la question de la surveillance et de la traque de ses écrits prémonitoires sur le web. L'avocat Sébastien Fontaine nous rejoindra. Il dénonce d'ailleurs le manque de moyens dans ce domaine, particulièrement chez nous, en Suisse. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, bien sûr, la mort d'Amy Winehouse, survenue hier. Elle avait 27 ans, étoile filante, météorite de la soul. Sa dernière prestation en juin, complètement saoule, lui avait valu d'être huée par la foule. Plusieurs voix s'élèvent pour dire que jamais ses managers n'auraient dû la laisser monter sur scène. Alors, quelle responsabilité de l'entourage professionnel dans la déchéance de cette diva? Une question que l'on évoque avec deux connaisseurs romands de la scène rock, Sébastien Vunier et Marc Ridet. Ils sont avec nous sur le coup dès 18h35. Taoufik Aklimandos, politologue, spécialiste du monde arabe, sera également des nôtres. La colère sur la place Tahrir ne faiblit pas au lendemain des violences. Les Égyptiens remontés contre l'armée qui a pris le pouvoir sans rompre véritablement avec l'ancien régime. Enfin, un beau menu sportif dans ce forum, l'arrivée du Tour de France. D'abord, comme prévu, c'est bien qu'Adele Evans qui a remporté cette édition 2011. Le journal des sports y consacrera une large place peu après 18h45. Il vous sera présenté par Laurence Bolomé. De la place aussi au football et notamment à Neuchâtel-Xamax qui vient à l'instant de perdre 2-0 contre Bâle au Stade Saint-Jacques. Météo, la journée de demain sous un ciel changeant, belles éclaircies en pleine le matin, plus de nuages l'après-midi et de la pluie en fin de journée, pas plus de 19 degrés sur le plateau. Et les détails de Stéphanie Collère, c'est juste avant 19h.
Forum, Nathalie Ducommun, Tatiana Odo.
Et la Norvège pleure ses morts. Tout le pays a rendu hommage, un hommage solennel aux 93 victimes de la tuerie sur l'île d'Utøya et de l'attentat à la bombe qui a touché le quartier gouvernemental de la capitale. Une messe a été célébrée dans la cathédrale d'Oslo, une cérémonie, on l'imagine, Grégory Tervel, empreinte de tristesse.
Oui, empreinte de tristesse, empreinte d'émotion. La famille royale, toute la famille royale était présente, le Premier ministre ainsi que le gouvernement étaient présents. Beaucoup d'émotions parmi l'Assemblée. Le roi et la reine étaient en larmes. Le roi et la reine sont très présents, ainsi que le Premier ministre, depuis hier, pour assister, on va dire, le peuple norvégien dans cette tragédie. Le Premier ministre a repris une phrase ce matin lors de la cérémonie, une phrase d'une jeune militante du Parti travailliste qui a été interrogée après le massacre et qui disait « Si un seul homme peut faire preuve d'autant de haine, imaginez combien d'amour nous pouvons montrer tous ensemble. »
Alors l'enquête avance. Hein, l'auteur présumé de ces deux attaques a reconnu, semble-t-il, les faits. Il affirme avoir agi seul. Que sait-on de plus ?
Alors la police vient d'expliquer il y a quelques minutes qu'elle travaille toujours à vérifier le fait que le suspect a bien agi seul, comme il le souligne lui-même et comme tous les éléments le laissent penser. Anders Behring Breivik a planifié son opération pendant de longues années. Dans le manifeste extrêmement détaillé qu'il a publié une heure avant de passer à l'acte, une heure avant l'explosion de la bombe dans le centre-ville d'Oslo vendredi, il explique tout, de ses motivations, il parle de lui, il parle de son passé, il explique comment il a réussi à cacher son projet, comment il a réussi à cacher sa double vie. Il se définit comme un croisé, comme un soldat en lutte contre l'islamisation de l'Europe. Et puis il dit que ces actes doivent être compris comme une opération de marketing dont le but est de faire connaître son manifeste et ses idées. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il recherche une tribune dorénavant. Il passera d'ailleurs demain devant la justice pour la première fois. Il sera formellement incarcéré et lui souhaite que cette première audience soit publique.
On constate que la police a mis énormément de temps à arriver sur les lieux d'Utøya, sur cette île, plus d'une heure. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, il s'est passé une heure, tout simplement parce que, d'abord, il faut du temps pour la police pour se rendre à proximité. Il y a plusieurs dizaines de kilomètres à parcourir. Et puis, il y a eu un problème de bateau. La police locale n'a pas pu trouver un bateau tout de suite pour se rendre sur l'île. Et donc, c'est les forces spéciales venues d'Oslo qui sont finalement arrivées au moment où le bateau arrivait lui-même. Et donc, ce sont les forces spéciales de la police d'Oslo qui sont intervenues en premier. Et le suspect s'est rendu tout de suite, immédiatement et sans opposition, dès que la police est arrivée. Mais il s'est effectivement passé une heure entre l'alerte et le moment où la police est arrivée.
Est-ce qu'avec ce qui s'est passé, on sent pointer en Norvège un débat sur le lien entre extrême droite et dérive criminelle ?
Absolument pas, tout simplement parce que la Norvège pleure ses morts, la Norvège n'a pas encore fini de compter ses morts. La liste des victimes, les noms des victimes n'ont pas encore été rendus publics. Ce sera fait probablement dans les prochaines heures. Donc l'heure n'est absolument pas encore au débat ou aux polémiques. Il y a cette question, bien sûr, qui ne manquera pas d'être soulevée probablement dans les prochains jours. Il y a aussi la question de la peine maximale, 21 ans en Norvège. Anders Breivik n'encourt que, entre guillemets, 21 ans de prison. Tout ça, ce sont des questions qui probablement émergeront dans le débat national en Norvège, mais pour le moment, il est trop tôt pour ça.
Grégory Tervel, vous étiez en direct d'Oslo, merci.
Et avant de poursuivre, un petit détour par la route.
Infotrafic RSR.
Attention, on nous signale qu'un véhicule a perdu un matelas sur la voie de gauche sur l'autoroute Lausanne-Genève entre Coppet et le pont sur la Versoie. En direction de Genève, faites preuve de prudence si vous circulez sur ce tronçon. Pierre-Yves Camus devrait nous rejoindre incessamment sous peu, le spécialiste des mouvements d'extrême droite en Europe, pour son analyse de ce lien qui est tissé. Est-ce que l'extrême droite est un terreau plus propice à une certaine dérive, à la violence ? On a beaucoup parlé d'incitation à la haine raciale. Est-ce que tout cela prend de l'importance ? On a entendu notre correspondant Grégory Tervel nous le dire, en Norvège pour l'instant bien sûr ce n'est pas le moment de débattre politiquement de cette question, mais elle traverse de nombreux éditoriaux ici et en France. Trois invités sont déjà avec nous en ligne, je vais les accueillir. Léonard Binder, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien vice-président du PLR. Andy Gross est également en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Conseiller national socialiste. Vous êtes d'ailleurs un connaisseur de la Norvège. Vous y êtes rendu très souvent. Et Oscar Freisinger, conseiller national UDC. Bonsoir.
Bonsoir.
Oscar Freisinger, je sais que vous êtes très remonté sur ce lien qui est tissé entre violence et extrême droite. Vous dénoncez une récupération politique aujourd'hui de ces événements dramatiques en Norvège. J'aimerais tout de même commencer avec vous par une question simple. Vous qui fréquentez par ailleurs des partis plus extrêmes, on peut le dire, que l'UDC en Europe, notamment on a beaucoup parlé de vos liens avec les Pays-Bas. Ce sont des partis assez radicaux sur la question de l'immigration et de l'islam. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des personnes que vous sentiez fragiles, sous une influence dangereuse pour elles, dans cet environnement ?
Bon, nous avons eu au début, lors de la fondation de l'UDC Valais, quelques fous, évidemment, comme c'est le cas pour les partis qui viennent se créer. Vous avez des frustrés qui apparaissent au portillon. On les a exclus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. On peut simplement répéter que, pour nous, la limite à ne jamais franchir, c'est celle de l'état de droit. Il n'y a pas de violence ni dans les insultes, ni physique. Et dès le moment où quelqu'un pratique ce genre de manière de se battre, eh bien, il est exclu, parce que nous voulons jouer le jeu de l'état de droit. Ensuite, bon, bien sûr, le débat peut avoir lieu, mais justement dans les règles de l'art. Puis ensuite, aucun être humain ne doit être rejeté pour ce qu'il est. On peut critiquer certains comportements, des comportements criminels ou autres, ça c'est sûr, mais chaque être humain a le droit d'être ce qu'il est, d'avoir la couleur de peau qu'il a, d'avoir la provenance qu'il a, ça c'est pas ça qui pose problème. Donc à partir de là, ce que je trouve un peu déplorable actuellement, c'est surtout, j'ai vu ça sur le blog de Carlos Omaruga, évidemment face au drame qui touche actuellement 93 familles qui ont perdu des proches, je pense qu'on arrête de faire de la politique de bas étage et on a une pensée pour les victimes. C'est un drame ce qui s'est passé, il y a un quelconque cinglé qui tire. Ça fait beaucoup de douleur. La Norvège actuellement est très digne d'ailleurs dans sa manière de gérer la chose. Et je m'aperçois qu'il y a des gens qui tout à coup partent dans des amalgames. Les premiers d'ailleurs à accuser l'UDC de faire ce genre de choses. Je trouve ça d'un niveau franchement douteux.
Andy Gross, on parlait de l'un de vos camarades, Carlos Samaruga. Comment vous vous positionnez? Vous, il y a aussi des éditos, notamment ce matin, dans le matin dimanche, qui met en garde sur la banalisation de l'extrême droite et des discours anti-immigration, anti-société multiculturelle, et que cette banalisation, il faudrait y prendre garde. Vous souscrivez à ce genre de position, Andy Gross?
Moi, je pense que le terme extrême droite n'est pas assez précis. Aussi pas comme les jeunes socialistes suisses, ils ont utilisé le terme populisme de droite. Oui. Ici, il y a quelqu'un qui a dérivé à la violence. Et il y a beaucoup de différentes positions politiques qui ont déjà été abusées pour légitimité de la violence. L'extrême gauche dans les années 70, maintenant un extrême de droite. Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur quel terrain, sur quel humus quelqu'un peut dériver comme ça. Et maintenant, il faut son manifeste que vous avez fait référence déjà, était déjà cité. Et là, c'est clair qu'il a un discours qui pense que sa race, sa race est supérieure à l'autre. Et ça, par exemple, un élément de prétendre d'appartenant à une suprématie qui légitime l'utilisation de la violence contre quelqu'un d'autre, contre les immigrants, contre quelqu'un d'une autre religion, ça c'est un discours, une façon à dériver à la violence. Et moi j'aimerais beaucoup plus utiliser le terme fondamentalisme, parce que vous savez que tout le monde, même nous avons pensé d'abord que la source de cette violence atroce était des fondamentalistes islamistes, et maintenant c'est un fondamentaliste chrétien qui a utilisé contre l'islamiste les mêmes façons, les mêmes moyens qu'il a, disons, aux États-Unis, les islamistes, ils ont utilisé contre nous. Et ça, c'est peut-être une beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus fertile à comprendre pour éviter dans l'avenir que quelque chose similaire serait produit.
En même temps, Andy Gross, insister sur le fondamentalisme chrétien, c'est assez délicat. Vous connaissez bien la Norvège, elle est luthérienne. Le fondamentalisme luthérien, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe, qui se cristallise dans certains mouvements, dans certains groupes?
D'abord, fondamentaliste chrétien, c'est lui-même
qui se définit de la sorte, oui.
Qui se définit comme ça, c'est une citation. Et c'est, il y a des églises libres, comme on dit chez nous, aussi chez nous, dans le Berner Oberland, dans le Zürcher Oberland, dans le Jura bernois, il y a des églises qui sont fondamentalistes. Ils ont une approche chrétienne fondamentaliste. Il faut définir peut-être aussi le terme fondamentaliste. Fondamentaliste.
Juste une petite question. J'ai un petit problème.
Oscar Freisinger.
Oui, parce que en fait, on le décrète fondamentaliste chrétien par rapport à ses propos, mais aucun lien n'a pu être établi par rapport à une organisation existante. Par contre, on sait qu'il était jusqu'au jour de l'attentat membre d'une franc-maçonnerie, donc d'une loge franc-maçonnique. Et là, il y a une incompatibilité parce que je connais peu de francs-maçons qui sont fondamentalistes chrétiens. Là, j'ai un petit problème. Je pense que c'est plutôt un cinglé qui mélange tout.
Cinglé, c'est trop facile, M. Freisinger. Il est aussi appartenu à la Freiheitspartei, au parti
du progrès.
Du progrès.
Il a quitté ce parti parce que ce parti, lui, il n'était pas assez violent, pas assez extrême, pas assez fondamental.
Andy Gross, j'aimerais juste, on va poursuivre, mais j'aimerais tout de même poser la question à Léonard Binder, l'accueillir dans ce débat. Simplement, Léonard Binder, Andy Gross a commencé avec la question de l'humus, du terreau, propice, et faut-il le chercher dans la société norvégienne? Faut-il le chercher dans une idéologie d'extrême droite islamophobe? Quelle est votre perception, vous, de ce drame?
Bon, je dois dire que c'est extrêmement difficile de pouvoir déjà analyser les tenants et aboutissants. Ce qu'on constate, et les premiers éléments de l'enquête le montrent, on est face à quelqu'un qui semble avoir agi seul, un acte totalement insensé. On est peut-être dans la pathologie davantage que dans l'idéologie ou dans la politique. Je pense que il est toujours très dangereux quand on fait des amalgames. Moi, je crois que tous les partis démocratiques qui se confrontent et qui respectent les règles, la légalité, n'ont pas à être associés à des drames de cette nature. D'ailleurs, je crois que moi, je suis ici en Italie, les commentaires, les éditoriaux des journaux, ça a été d'abord une surprise absolument incroyable, parce que la Norvège, c'est un petit peu l'exemple d'un pays pacifique, d'un pays très ouvert, c'est le pays vraiment de l'ouverture, et voilà que arrive dans ce pays idyllique un drame totalement insensé. Et aussi dans un des éditoriaux de ce matin, dans la presse de Transalpine, on faisait remarquer qu'il y avait eu une centaine de morts victimes de l'extrémisme illégal, qu'elle soit de gauche ou de droite, en Europe ces 10 dernières années. Et là, on est face à un drame où probablement il y aura au final une centaine de tués. Oui, il y a encore des propos. Oui, par exemple, j'ai lu les témoignages d'une fille qui a été. Il y avait un camp de jeunes travaillistes, de jeunes socialistes qui avaient leur fête d'été. Et puis il arrive, il tue. Il y a même des gens qui ont imploré sa pitié. Il l'a achevé. Donc,
mais c'est évident, Léonard Bender. Oui, oui.
Il faut connoter politiquement. On est dans la criminalité et dans l'insensé, je pense.
Bien sûr, au niveau des actes, je pense qu'il est effectivement assez clair. J'ai pu m'entretenir avec Pierre-Yves Camus, qui devrait nous rejoindre, mais effectivement, ce qu'il explique lui-même a fait des recherches sur le lien entre extrême droite et violence éventuelle, et il a des résultats, me disait-il, très contrastés. D'ailleurs, c'est très très difficile de tisser le lien. On a parlé aussi ensemble du groupuscule, peut-être de l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. La Norvège a, dès 1942, eu un gouvernement collaborationniste. Est-ce que les groupuscules néo-nazis survivent à cette période-là? Il me répondait que beaucoup moins qu'en Suède. Andy Gross, je reviens avec vous parce que vous avez fait un nombre incalculable de voyages en Norvège. On le sait, la Suède et la Norvège, c'est pas le même héritage historique.
Non, pas du tout. Vous avez raison de faire la différence entre la Norvège et Suède à cause de l'histoire. Mais moi, je pense... Il n'était pas chez les nazis. Il n'était pas connu chez les milieux d'extrême droite nazistes, fascistes. C'était la police norvégienne qui a dit ça, qui a souligné ça. Il était membre d'un parti qui a aussi 20% dans les élections norvégiennes, qui est dans le Parlement, le Fortschrittspartei, le Parti du Progrès, mais il a été déçu de leur façon d'être trop mou, trop flou. Et c'est, moi, je me réfère à des sociologues norvégiens qui, par exemple, aujourd'hui dans la NZZ am Sonntag, un des plus fameux, a bien expliqué cette personnalité, et il a dit, ce sociologue norvégien, que naturellement tous les Norvégiens aujourd'hui sont scandalisés, mais leur Weltanschauung, leur idéologie est très partagée, son idéologie est très partagée, parce que son discours, et il pense qu'il faut défendre la Norvège, la société norvégienne, contre l'islam, contre les musulmans. Ils pensent que les élites sont les traîtres. Ils pensent que l'immigration, qui en Norvège est 10%, pas comme nous, une autre dimension encore que chez nous, c'est une menace à la Norvège. Et de ce sentiment de menace, il légitime l'utilisation de violence.
Alors ça, justement, Andy Gross, ce sont des points intéressants, parce que bien sûr, on ne peut pas focaliser sur sa personne qui a forcément, il y a des ressorts psychologiques évidents, pathologiques, j'allais dire. Mais Oscar Freisinger, j'aimerais vous entendre réagir là-dessus, parce que ce que nous dit Andy Gross, les revendications de cet homme contre l'immigration islamique, contre les musulmans, sur le fait que notre élite, les travaillistes en l'occurrence, puisque ce sont eux qui sont au pouvoir en Norvège, sont trop laxistes. Ces discours-là, on les entend aussi très clairement. Ils sont assez mainstream, pour parler un français correct. Votre ami Geert Wilders, il proclame des discours de la sorte qui ont... D'ailleurs, il a eu des soucis avec la justice pour incitation à la haine raciale.
Non, mais il a été acquitté, alors absolument. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que ce monsieur, ce fou... ne se rend pas compte de la contradiction de son discours, parce que vous ne pouvez pas critiquer l'islamisme et utiliser les mêmes moyens que ceux que vous prétendez combattre. Parce qu'alors, vous vous mettez au même niveau qu'eux. Donc là, il y a une erreur déjà d'appréciation totale dès le départ. Ensuite, le deuxième point, c'est que il y a une différence entre sa vision du monde dans une démocratie, puisque nous garantissons la liberté d'opinion et d'expression, il peut avoir l'idée que, ma foi, les élites font pas leur travail, que, ma foi, le multiculturalisme ne lui convient pas. Ok, ça, moi, je veux dire, il a légitimement le droit, puisque notre état de droit le lui donne, ce droit. Par contre, il n'a pas le droit d'utiliser des moyens qui sortent des moyens de lutte qui sont ceux de l'état de droit. Il a le droit de s'inscrire dans un parti, il a le droit de se présenter sur une liste, il a le droit de faire des campagnes, je sais pas moi, lors de votations, lors d'élections, il a le droit d'utiliser tout l'instrumentation qui est à disposition des gens, mais ce qu'il a fait là, c'est en dehors de tout. C'est les moyens qu'il utilise pour combattre. Moi, je veux dire, il peut avoir ses idées, on peut les trouver bien ou pas bien, mais c'est le moyen.
Après, c'est les actes.
Maintenant, le problème que j'ai, moi, je suis président de parti, c'est que il m'est arrivé d'avoir des gens où je sentais qu'ils étaient éventuellement d'accord d'utiliser de la violence s'il le fallait pour leur combat politique. Eh bien, moi, je peux les foutre dehors, c'est ce que j'ai fait, mais le problème que j'ai, c'est que je les exclus, mais je ne contrôle plus du tout, ensuite, ce que ces personnes, elles font dans leur délire, dans leur solitude, et peut-être même que j'ai renforcé leur frustration en les éjectant, mais je suis absolument impuissant face à la folie de ces gens-là qui nourrissent leur haine en silence et un jour frappent, et quelle que soit la motivation ou le bord, ils peuvent être musulmans, chrétiens, bon, bouddhistes, ça sera un peu difficile, parce que là, vraiment...
Alors, ce serait vraiment très, très contradictoire, en effet, Oscar Freisinger. On a bien compris votre position, et je vous en remercie. Léonard Binder, juste pour conclure, on peut évidemment... on peut faire quelques comparaisons entre la société norvégienne et suisse, on n'a pas le même taux d'immigration, mais on a des valeurs démocratiques très similaires. On avait une témoin hier qui nous disait...
Nous sommes deux nations paisibles, ouvertes
tout à fait,
monde,
économiquement plutôt fleuries. Juste ma question, Léonard Binder, si vous le permettez, c'est un choc. Est-ce que ça peut bouleverser d'une façon ou d'une autre, ébranler la démocratie norvégienne, ce genre d'événement, selon vous?
Non, absolument pas. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui et ces prochains jours montreront une forme, évidemment, d'union nationale. Et il y a, je crois, autour des valeurs qui sont communes, d'ailleurs, à tous les Norvégiens. Il y a un consensus que tout acte criminel, aussi fou soit-il, ne saurait t'ébranler. Mais ce que j'aimerais dire, pour conclure, il me semble, que cet acte isolé, totalement insensé, moi je le rapprocherais davantage de la fusillade de Zug qu'on a connue en Suisse, que d'un acte véritablement avec du sens politique, parce que manifestement on est dans une personne qui a une totale pathologie, qui se croit investie d'une mission et qui pose des actes qui sont totalement insoutenables. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention avec les amalgames, avec les raccourcis, mais il faut ne pas oublier que c'est aussi la responsabilité des États de droit de faire la surveillance contre toutes les personnes qui pourraient menacer l'ordre public, la cohésion, commettre des crimes. Il faut être très vigilant sur Internet, il faut être très vigilant dans le renseignement, dans la surveillance. Et là, l'état de droit est aussi quand même défié, même par des actes isolés de cette nature dramatique.
Et cette vigilance-là, notamment sur Internet, on va en parler tout à l'heure avec Sébastien Fanti. Mais si vous voulez bien, messieurs, je vais conclure avec vous parce que nous venons de joindre Jean-Yves Camus qui nous rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
In extremis, vous êtes spécialiste des mouvements d'extrême droite en Europe, chercheur associé à l'IRI. On a peu de temps, Pierre-Yves Camus, mais tout de même, ce lien entre l'idéologie d'extrême droite, sorte de terreau plus fertile qu'une autre idéologie pour donner naissance à de la violence, pour provoquer des actes criminels dangereux. Est-ce que c'est un lien pertinent qu'on peut tisser là?
C'est un lien pertinent à condition de ne pas inférer du fait que l'auteur de cette fusillade ait appartenu à un parti qui est considéré en Norvège comme faisant partie du spectre démocratique, même s'il est la formation la plus à droite de loin. Il ne faut pas considérer que c'est ça qui l'a mené à commettre son acte, mais bien le fait qu'il ne trouvait précisément plus dans le parti dont il était membre,
le Parti du Progrès,
le Parti du Progrès, un vecteur susceptible de véhiculer ses idées. Il considérait que le Parti du Progrès était devenu trop mou, finalement il était un parti de politiciens comme les autres, et c'est toujours ce qui se passe lorsqu'il y a des formations d'extrême droite qui sont fortes au plan électoral. D'une part, ça canalise la violence des individus qui pourraient partir dans des délires débouchant sur des actions du style carnage, et puis d'autre part, ça produit aussi des gens qui en sont membres à un moment donné, qui considèrent que ces partis ne vont pas assez loin, qui par conséquent, passez-moi l'expression, partent en vrille à un moment donné, et surtout s'ils sont psychologiquement fragiles, ce qui avait l'air d'être particulièrement le cas du suspect d'Oslo, peuvent commettre ce type d'action.
Et Pierre-Yves Camus, pour conclure rapidement, si on ajoute ce passage au Parti du Progrès, il claque la porte, comme vous dites, c'est pas assez extrême pour lui, revendication franc-maçonne, plus revendication de fondamentalisme chrétien dans un pays luthérien, quand on ajoute toutes ces bouts de curriculum vitae, si on veut, on arrive forcément à quelque chose d'incohérent.
Bon, on a quelque chose d'incohérent. Il n'y a pas de pires ennemis que la franc-maçonnerie et l'extrême droite. En règle générale, les formations d'extrême droite sont très opposées à la franc-maçonnerie. Elles considèrent que c'est une des formes de gouvernement mondial, une forme de gouvernement secret qui cache des quantités de choses aux citoyens. Par conséquent, je ne vois pas très très bien comment on peut s'affirmer à la fois chrétien fondamentaliste et franc-maçon d'une part, parce que généralement ça ne fait pas très bon ménage, et comment on peut être franc-maçon et d'extrême droite. C'est quand même quelque chose qui tient plutôt du salmigondi idéologique.
Jean-Yves Camus, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce soir dans Forum. Nous avions également Léonard Binder, Andy Gross et Oscar Freisinger. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, messieurs.
Et un seul homme qui met tout un pays à terre, ce Norvégien de 32 ans préparait vraisemblablement son action de longue date. Il a publié un manifeste de 1500 pages sur Internet, un texte achevé, semble-t-il, quelques heures avant le début de la double attaque d'Oslo. Sébastien Fanti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Ce scénario, on l'a déjà vu hein, dans d'autres fusillades. On pense encore récemment à celle de la Finlande en 2008. Des personnes qui font part de leurs intentions de manière plus ou moins explicite, hein, qui publient des vidéos, des textes sur Internet. Ça pose évidemment la question de la surveillance sur Internet. En Suisse, est-ce qu'on aurait pu éviter ou pas ce genre de choses?
Très difficilement. Je pense que la loi sur la sécurité intérieure qui est en cours de révision et qui fait l'objet de toilettage assez constant parce que ça évolue tellement vite dans le domaine des technologies, n'aurait pas permis à elle seule ni les moyens qu'on a engagés au niveau du gouvernement de la Confédération d'arrêter un homme comme celui-ci. Il faut un certain nombre de facteurs, il faut un facteur chance, il faut un facteur compétence et puis il faut aussi mettre les moyens et la Suisse n'a pas encore investi des moyens très importants pour privilégier la lutte contre ce type de criminalité parce qu'il s'agit d'une criminalité au sens classique du terme et donc je ne pense pas qu'on aurait pu éviter. Il aurait fallu quelqu'un qui aurait été particulièrement aguerri à ce type de discours et qui aurait considérer que l'homme était capable de passer à l'acte. Parce que des mots aux actes, il y a souvent un gouffre. Et c'est très difficile d'estimer le moment à partir duquel le danger va devenir réel.
Quand vous dites les moyens, ça veut dire notamment les moyens financiers pour acheter des logiciels performants. Il ne faut pas forcément engager des milliers de policiers peut-être pour surveiller Internet. Il faut surtout avoir du matériel performant.
Oui, aujourd'hui, il faut savoir que la police fédérale est relativement démunie pour lutter contre ce type de criminalité. Si vous regardez notamment la criminalité informatique, vous avez des pédocriminels et autres, eh bien, les moyens sont très faibles. Et il n'y a aucune volonté politique d'accroître ces moyens. Donc c'est un choix. C'est le choix d'un pays que celui de ne pas investir dans la lutte contre ce type de criminalité. Et donc, je ne pense pas qu'avec les moyens dont dispose la police fédérale, il lui ait été possible d'empêcher cela. Maintenant, évidemment qu'on est également tenu par d'autres impératifs. C'est pas simple d'investir de l'argent parce qu'on veut toujours avoir un résultat et on ne sait pas. Mais certains logiciels, si on prend l'exemple de logiciels, eh bien les logiciels du privé sont plus performants que les logiciels du public. La police fédérale ne dispose pas de tous les outils qui lui permettraient d'être pleinement efficace. Et là, il faut vraiment se poser la question de savoir combien de temps encore on peut vivre comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez une voiture et puis que vous disiez, écoutez, moi, pour l'instant, l'ABS et l'airbag, ça ne m'est pas nécessaire, la voiture peut rouler. Oui, mais le jour où vous aurez un grave accident, il lui était nécessaire d'avoir l'ABS et l'airbag, il faudra donc compter les morts. C'est un petit peu la démarche qui doit être faite aujourd'hui et il faut juste donner un chiffre. Nous, depuis que la loi sur la sécurité intérieure, qui est censée nous prévenir notamment de ce genre de menaces, a été mise en révision il y a déjà 10 ans. 10 ans, c'est long. C'est beaucoup trop long. Et surtout lorsque vous avez des gens qui, désormais, avec les moyens technologiques dont vous pouvez disposer gratuitement et très rapidement, sont capables de créer un réseau, sont capables de s'organiser, sont capables de savoir si vous vous trouvez à un camp de vacances à tel endroit, d'infiltrer, d'obtenir de l'information. Donc vous avez un ennemi, si vous me passez l'expression, puisque quelque part c'est un ennemi de la démocratie qui s'est manifesté ici, qui a lui des moyens qui sont très simples et très efficaces pour parvenir au résultat qu'il s'est fixé.
Et comment vous expliquez justement ce fossé entre la réalité hein, et l'informatique, les technologies qui va extrêmement vite, et puis finalement la politique qui ronronne un petit peu, hein, qui pense que c'est pas forcément nécessaire d'investir là-dedans, c'est des gadgets.
Alors bon, nous avons un lourd passé avec l'affaire des fiches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez aux citoyens de ce pays, et c'est bien compréhensible le fait, vous lui parlez du fait d'accroître la surveillance, eh bien ils vont immédiatement faire référence à ce précédent historique. Mais il faut savoir tout de même que même si on autorisait le recours par la justice, par la police, par les services de renseignement à des moyens beaucoup plus efficaces, il y aurait un double contrôle juridictionnel. C'est-à-dire que si vous avez un procureur qui prend la décision de mettre une personne sous surveillance, voire même de perquisitionner de façon électronique son ordinateur, ce qui est possible notamment en Allemagne, Et bien, à ce moment-là, vous auriez un tribunal qui justifierait encore de la mesure. Et si vous vous êtes trompé ensuite, la personne qui était mise sous surveillance en est informée et puis elle peut faire valoir ses droits. Donc, on n'a pas confiance. Aujourd'hui, la confiance n'est pas suffisamment importante pour donner à l'État de droit les moyens de lutter contre ce type de dérive, d'errance. Donc, il faudra bien qu'on se pose la question un jour, qu'on fasse notre réflexion globale sur la sécurité de ce pays et qu'on se dise, mais est-ce qu'on veut continuer à faire confiance au domaine privé pour assurer la sécurité d'un pays, ou est-ce qu'on veut assurer la sécurité par le biais des pouvoirs publics? Mais dans ce cas-là, donnons-leur les moyens de faire leur travail, quitte à avoir un organe de vérification qui serait externe, comme par exemple, quelqu'un qui serait hors des départements fédéraux et qui serait la personne de référence pour viser tous les actes de ce type. On aurait plusieurs possibilités démocratiques pour assurer une surveillance qui serait, elle, soumise à un double contrôle.
Sébastien Fanti, merci d'avoir été avec nous quelques instants. Vous êtes avocat spécialisé dans les nouvelles technologies.
Au revoir.
Forum, Nathalie Ducommun, Tatiana Odo.
En Égypte, des centaines de manifestants occupent toujours la place Tahrir au centre du Caire. Hier, une manifestation contre les autorités militaires s'est terminée par de violents affrontements. L'armée, qui bénéficie d'un large soutien populaire pour sa neutralité, prend pendant les soulèvements est de plus en plus critiquée. Tevfik Aklimandos, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes politologue, chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Les manifestants reprochent à l'armée de montrer finalement assez peu d'enthousiasme à la mise en œuvre des réformes. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de changer de camp?
Non, elle est toujours dans son propre camp, elle, qui est celui de la sauvegarde de l'autorité de l'État. Pour elle, la sauvegarde de l'autorité de l'État implique surtout une organisation des élections ou une réaffirmation de la souveraineté de ce dernier. Alors, effectivement, beaucoup de manifestants, pas seulement ceux qui sont à place Tahrir, mais sont plutôt, eux, dans une perspective d'approfondissement de la révolution et de refondation de toutes les structures d'autorité qui sont dans le pays. Et effectivement, là, l'armée soit elle estime que c'est pas son mandat, soit elle freine des quatre fers pour défendre l'État.
Mais on sent quand même une certaine désillusion hein, au sein de la population.
Il y avait un malentendu, puisque tout le monde était d'accord pour demander au clan présidentiel, les Moubarak, de s'en aller. L'armée a effectivement fait attirer beaucoup de reconnaissance parce qu'elle a refusé effectivement de tirer sur les manifestants. Mais les agendas sont extrêmement différents, puisque l'armée a surtout demandé au clan Moubarak de s'en aller pour sauver l'État, pas pour le démolir de fond en comble, ce qui ne veut pas dire qu'elle est contre les réformes, mais elle est, elle les fait à son rythme.
Mais finalement, elle est devenue un petit peu la nouvelle cible hein, de la colère populaire. Même sans vouloir.
De la colère populaire, je n'irai pas jusque-là. Elle est l'objet de très grandes critiques de la plupart des acteurs, mais vous n'êtes pas sûr qu'entre les manifestants de la place Tahrir et l'armée, la population soit unanime à dire lequel a raison, lequel a tort. Chacun a des reproches à faire contre le pouvoir, donc contre l'armée, mais je peux penser ce que je veux, moi, de l'armée. Je vous dirai pas forcément que entre les manifestants et l'armée, c'est les manifestants qui ont raison. Cela dit, la répression de la manifestation hier a été absolument extrêmement violente. Quoi.
Et que veut finalement la population aujourd'hui? Alors, le clan Moubarak n'est plus au pouvoir, ça c'est une chose, mais que faut-il maintenant pour que cette révolution ne tourne pas à l'échec?
Ah, il faut beaucoup de choses. D'abord, effectivement, je comprends aussi tout à fait les manifestants quand ils parlent de revoir de fond en comble le fonctionnement de l'appareil d'État, les rapports d'autorité, et qu'ils veulent effectivement, donner aux citoyens beaucoup de droits. Alors, plus concrètement, il y a beaucoup d'hommes d'anciens régimes qui sont gravement compromis avec le régime Moubarak qui sont encore en place, que ce soit au sein de la police, de la défense sécurité d'État ou au sein des collectivités locales. Les procès de ceux qui ont tiré sur les manifestants traînent en longueur et se déroulent dans une opacité qui est déplorable. On pourrait énumérer les choses. La liste des griefs légitimes est interminable, sans parler des autres.
Tafik Aklimandos, merci d'avoir été avec nous quelques instants. Bonne soirée.
Bonne soirée, madame.
Et tout autre chose avec la mort hier d'une jeune diva, une surdouée de la musique, une voix incroyable, le talent de l'écriture en plus. 2 albums seulement, mais une carrière, celle de Amy Winehouse, qui va continuer de nourrir la légende du rock. Amy Winehouse est morte à 27 ans, comme Janis Joplin, Jim Morrison ou encore Jimi Hendrix. Elle a vraisemblablement succombé à ses excès de drogue, de médicaments et d'alcool. C'est ce qu'affirment en tout cas certains médias. La police n'a pas encore confirmé. Depuis hier, des voix s'élèvent pour critiquer son management. Certains affirment qu'elle était mal entourée professionnellement. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la responsabilité professionnelle d'une équipe de management quand il s'agit d'une artiste à ce point fragile, à ce point malade? 2 invités nous ont rejoints. Sébastien Vunier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes directeur de TAC Productions. Vous avez également été programmateur à Paléo, à l'usine du côté de Genève. Et en direct de notre studio, justement, au Paléo Festival. Marc Ridet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous de nombreuses casquettes en ce qui vous concerne, notamment fondateur de la Dolce Vita, c'est assez mythique. Et vous avez été agent d'artiste. Vous êtes l'actuel directeur de la Fondation CMA. Bon, d'abord, évidemment, une réaction à cette mort, puisque de nombreux hommages pleuvent un peu partout. On peut parler d'une sourdouée de la musique, de la soul, Sébastien Vunier.
Alors, oui, absolument, parce que d'abord, c'était une magnifique auteure et compositrice, parce que les 2 albums qu'elle a fait sont remplis de perles. Et moi, j'ai eu la chance de la voir en concert une seule fois. C'était en 2007 au festival de Glastonbury en Angleterre. Et le concert était magnifique. D'une part, elle avait un groupe exceptionnel de musiciens, son comme ça très soul. Et puis, en effet, cette voix, qui au-delà de son talent d'écriture et tout ça, mais l'interprétation, la voix, qui était absolument exceptionnelle. Donc aujourd'hui, elle a 27 ans. À l'époque, elle en avait 22 ou 23. Et puis, c'était inimaginable. C'était difficile de saisir comment une telle voix pouvait sortir de cette femme.
Marc Ridet, une artiste comme ça, vous auriez tout de suite signé? Vous auriez été son agent?
Ah, bien sûr, ben, enfin, en Suisse peut-être, ouais. Mais c'est une super artiste. Ouais, j'ai vu aussi 2 fois, je l'ai vu au Midem, et je l'ai vu la même année aux Eurockéennes, 2 super concerts en pleine forme, avec un groupe formidable, les Daptones, qui est un groupe avec qui elle avait fait l'album, là, de la soul, avec des textes aussi très contemporains. Et oui, une super artiste, super voix, c'est une grande tristesse, ouais.
Marc Ridet, quand on sait par ailleurs qu'elle était toxicomane, qu'elle ne pouvait s'empêcher de boire, de se droguer, vous auriez tout de même pris le risque de vous occuper professionnellement d'Amy Winehouse, où il y a quand même des questions qui se posent et ça devient dangereux, risqué de s'occuper d'une telle artiste?
Il y en a quand même, faut pas non plus généraliser, hein. Et c'est dangereux. Moi j'ai fait des concerts et je me souviens des concerts avec la Manon Negra, et quand on organisait les concerts, c'était dangereux pour d'autres raisons, parce que c'était un bordel incroyable. Et puis on avait peur à chaque fois que ça parte un petit peu en émeute, quoi. Donc il y a toujours quand même quelque chose de risque. On est dans un domaine artistique, et je pense que des grands artistes comme elle, justement, il y avait quelque chose qui était fragile, sa magie, elle était là aussi, hein. J'ai vu aussi quand même pas mal d'autres artistes qui étaient aussi, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de drogues qui circulent quand même dans la musique, peut-être beaucoup trop. Mais faut pas non plus, à mon avis, généraliser, quoi.
Sébastien Vunier, sur Sky News hier en Angleterre, un manager de grosse production a affirmé que jamais il n'aurait laissé son artiste monter sur scène dans l'état où était Amy Winehouse lors de sa dernière prestation filmée le mois dernier à Belgrade, hein, vidéo YouTube qui a été diffusée sur tout le net. Elle avait été huée, c'était vraiment l'humiliation au fond. Comment vous réagissez, vous, à ce genre de discours-là? On précisera aussi que Daniel Rosla, le directeur du Paléo, a aussi laissé entendre qu'Amy Winehouse était mal entourée. Ça veut dire quoi être mal entourée dans ce genre de cas?
Bah alors, c'est sûr que c'est une situation très délicate. Le tour manager que vous citez, je pense qu'il avait raison, parce que lui, son rôle, c'est de protéger l'artiste, de protéger la personne, mais aussi son image et tout ça. Et en effet, l'image qui a été donnée de ce concert en Serbie, moi j'ai visionné aussi sur internet cet extrait, j'ai pas pu aller jusqu'au bout tellement j'ai trouvé ça dur de voir une personne malade souffrir et puis exposée comme ça en public. Après, est-ce que c'était complètement contre son gré ou pas, c'est difficile de juger comme ça a posteriori, mais c'est très compliqué d'entourer un artiste, et surtout un artiste qui est malade, puisqu'il s'agit de maladie dans le cas d'addiction de ce type, et fermer la porte et empêcher un artiste de tourner, ne pas s'engager, ne pas programmer de tels artistes, c'est aussi nier leur existence, parce qu'à un moment, il y a des artistes que ça sauve de tourner, il y a des artistes que ça peut guérir d'une certaine manière. J'ai entendu ça et là des gens qui disaient « mais Paléo, c'était irresponsable de programmer cette personne, on sait qu'elle était malade ». Moi, je crois qu'au contraire, c'était un choix... oser, risquer, mais ça fait partie d'un travail d'un festival, de travail de programmateur, de prendre ce genre de risque, surtout quand il s'agit d'artistes qui sont capables de livrer des prestations exceptionnelles. Malheureusement, là, le risque n'a pas payé, et puis ensuite il y a eu cette fin tragique. Mais je crois que c'est pas parce qu'il y a ces risques et ces problèmes qu'il faut se dire non, il faut cesser et ne plus rien faire.
Oui, la suspicion, Marc Ridet, c'est tout de même évidemment l'argent. On peut craindre que tout un entourage professionnel, le producteur, l'agent, le tour manager ou la maison de disques veut profiter financièrement de cet artiste et est prêt à la pousser jusqu'au bout. C'est ça la suspicion qu'il y a.
C'est sûr que quand on a vendu 12 millions d'albums, l'artiste représente et qu'elle n'est pas sortie d'album, Black is Black, c'est sorti quoi, il y a 4-5 ans, je pense, facile. Donc il y a tout intérêt à ce que l'artiste retourne sur scène, qu'on garde une actualité, qu'on prépare un nouvel album qu'on attend depuis je ne sais pas combien de temps. C'est sûr qu'il y a une énorme pression autour de ça, mais un petit peu comme dit Seb, en même temps, il ne faut pas non plus stigmatiser spécialement l'entourage ou l'artiste, parce que d'abord, il y a plein d'artistes pour qui ça fonctionne très bien. Il y a aussi, et c'est probablement les mêmes personnes, le management d'Amy Winehouse, il doit avoir probablement pas mal d'autres artistes.
Et mais quand vous dites que ça fonctionne très bien, Marc Ridet, ça veut dire que ça fonctionne très bien pour des artistes en toxicomane qui s'en sortent très bien en montant sur scène tous les soirs, c'est ça?
Oui, je pense aussi.
Il y en a beaucoup. Et
plus qu'on pense. Et ce que je veux dire, c'est surtout que l'artiste a quand même un certain contrôle de tout ça. Alors peut-être que elle, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter? On va la mettre dans un centre pour des intoxications contre son gré? C'est très difficile. Moi, j'étais confronté souvent avec des artistes dans des qui étaient difficiles, qui étaient dans des états. Moi, j'ai travaillé avec Nico, par exemple, qui était la chanteuse du Velvet Underground, qui faisait des dates solo. Elle était toujours aussi sous l'emprise. Elle est morte. Il y a quelques années, elle était aussi toujours sous l'emprise de l'héroïne, mais elle tournait, elle faisait des concerts, et c'était pour elle une manière de vivre, et ça l'a sauvée aussi de faire des concerts. Je veux pas justifier tout ça, mais je pense que quand même l'artiste a aussi un certain contrôle, et je pense pas qu'il faut spécialement stigmatiser tout l'entourage, et par contre qu'il y ait des pressions économiques autour, oui, elles existent. Ouais.
Oui, Sébastien Vunier, vous aussi, vous me faisiez part tout à l'heure, quand vous étiez programmateur à l'usine, d'un groupe américain, je crois, qui devait être sous pour faire ses prestations sur scène.
Exactement, c'est un groupe qui s'appelle The Jesus Lizard.
Mais là, Sébastien Vignier, il n'y a personne dans le business qui se dit « mais c'est pas possible, on peut pas continuer à programmer des gens en devant les saouler pour qu'ils fassent une prestation ». Il n'y a pas quand même une question éthique qui circule dans le métier, là?
Ben, je pense qu'à un moment, c'est justement de la responsabilité des artistes eux-mêmes. Et comme disait Marc tout à l'heure, il y en a pour qui c'est leur raison de vivre et leur enlever ça, ça les empêcherait de vivre quelque part. Dans un autre registre, et il s'agit surtout pas de faire une comparaison, mais moi je me suis occupé des concerts d'Alain Bachung sur les trois dernières tournées. D'ailleurs, j'ai repris cette activité après Marc Ridex, j'en ai occupé plus tôt. Et Alain Bachung, quand il a été malade, c'était une autre maladie, c'était pas une addiction.
Le cancer.
Voilà, exactement. Lui a souhaité de continuer à tourner, et c'est ça qui apparemment l'a maintenu en vie plus longtemps, et c'était ce qu'il voulait. Mmh. Et là, par exemple, son producteur en France, Gérard Michel, a pris des gros risques, parce que bien sûr, aucune assurance n'était prête à couvrir ses concerts en cas d'annulation, annulation de la tournée, annulation de tel ou tel concert. Et il n'y a pas que des entourages qui sont motivés par l'appât du gain et qui cherchent à presser les artistes au maximum. Il y a aussi des gens qui sont à l'écoute de ces artistes. Et puis des fois, bah, même quand il y a des problèmes d'addiction et tout ça, bah, la scène, ça peut être une thérapie.
Mais ça ne l'a pas été malheureusement pour Amy Winehouse. Je vous remercie, il est temps de clore. Sébastien Vunier, Marc Ridet, allez, un tout petit extrait de Rehab. Bah, c'est comme ça qu'on aimerait se souvenir d'Amy Winehouse. Merci messieurs.
Au revoir. I've been black, but when I come back, no, 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 I ain't got the time, and if my daddy
Musique toujours, le Paléo Festival de Nyon, édition 2011, vit ses dernières heures. Il vient d'accueillir son 5 millionième spectateur depuis sa création en 76. Une 36e édition qui aurait surtout été marquée par la pluie et la boue du jamais vu. Pierre-Étienne Joie, vous êtes en direct de Paléo.
Oui, la boue qui aura marqué ce Paléo 2011, même si actuellement le terrain est relativement sec et il ne pleut pas encore. Assez sage donc, avec plus de 62 mm de précipitations en 8 jours, cela fait de Paléo le plus gorgé d'eau depuis ses débuts, au milieu des années 70. En chiffres, le plan pluie aura nécessité 1130 mètres cubes de paille, près de 500 mètres cubes de copeaux, plus 50 mètres cubes de gravier, voilà. Mais au-delà de ces déficit de soleil, on va dire, comme l'a imagé son directeur Daniel Rosla, les spectateurs n'auraient en tout cas pas boudé la plaine de Lasse. 230 000 personnes au total ont fréquenté cette 36e édition, le plein. Quoi.
Et puis côté musique, alors quel bilan faut-il retenir de ce Paléo ?
Alors on l'aura maintes fois rappelé, ce Paléo 2011 fut estampillé rock. Au final, on a relevé la cohésion des Strokes jeudi, le visuel des Chemical Brothers mercredi, la simplicité impeccable de James Blunt vendredi, propice à entretenir du romantisme hein, chez les festivaliers. Ou alors côté francophone, les concerts généreux de Cali, des Cowboys, des fragments, des Cowboys fringants, ou bien alors de Jean-Louis Aubert, le seul lui à avoir bénéficié d'ailleurs d'une once de soleil. On attend d'ailleurs Eddie Mitchell un peu avant minuit. Sa dernière tournée. À noter enfin que l'an prochain, pour succéder aux Caraïbes, l'hôte d'honneur, eh bien, ce sera le Moyen-Orient.
Ah bien, Pierre-Étienne Joie, merci et bonne soirée, bonne dernière soirée à Paléo d'ailleurs. Et puis 18h48, eh bien, il est temps de passer au Journal des Sports. Laurence Bolomet, vous nous avez rejoint. Du cyclisme, bien sûr, et la confirmation de Cadel Evans.
Le grand victorieux de cette édition 2011. Les coureurs ont traditionnellement mis un terme à leurs efforts sur les Champs-Élysées à Paris, et Patrick Deletro était également dans la capitale française pour nous relater cette dernière étape remportée au sprint par le Britannique Mark Cavendish, qui conserve son maillot vert du classement par points avec 5 victoires d'étape durant cette année. Cadel Evans a un peu plus de 34 ans et le grand vainqueur donc de la grande boucle. Mais il ne faut pas oublier qu'une victoire individuelle est le résultat d'un travail d'équipe, Patrick Deletro.
Victoire, la première donc pour un Australien de Cadel Evans qui a pu compter sur l'énorme travail de toute son équipe. BMC a été créé pour un jour gagner le Tour de France, c'est fait. Et son directeur sportif John Lelang savoure cette victoire pourtant avec retenue.
C'est la sensation du travail accompli on va dire.
Il y a quand même un tout petit peu plus que ça, non ?
Ouais, une certaine fierté d'avoir travaillé avec un groupe, d'avoir eu un rêve, un objectif depuis plus de 2 ans et demi, depuis qu'on a lancé le truc avec Cadel, et puis voilà, d'arriver au bout de ce rêve, d'arriver à la conquête de ce Graal, et puis de se dire voilà, maintenant tout peut arriver, mais en tout cas on l'aura fait.
Cette équipe a été montée, vous le dites, depuis 2 ans et demi, pour Cadel, pour cet objectif-là.
Oui, ça a été un long chemin depuis le lancement de cette équipe en 2007, à un niveau amateur, 2008 à un niveau pro-continental, et puis on a grandi petit à petit. Voilà, on n'a pas brûlé les étapes, mais en tout cas, voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait faire.
Vous voulez encore grandir ?
Il faut toujours avoir un objectif dans la vie, voilà, tout simplement. Mais pour le moment, on va simplement se reposer sur ce qu'on a fait, se prendre 3 jours un peu tranquille. Et puis on verra après.
Sur le podium donc, Cadel Evans s'était entouré des frères Schleck qui hier déjà affirmaient avoir tout fait pour remporter ce tour, mais pourtant s'inclinaient face à l'Australien. Ils ont pu compter sur le travail de Fabian Cancellara qui a mis toute ambition personnelle de côté pour servir ses leaders. Il estime tout de même avoir effectué une bonne course.
Oui, non, je suis content. Je pense que c'était une petite tour pour moi vraiment différent. Déjà l'ouverture pour aussi la situation que moi j'ai donné toute ma énergie, toutes mes forces pour les frères. Et je pense moi j'ai donné le maximum et toutes les équipes il a fait le maximum. Nous sommes venus jusqu'à Grenoble avec le maximum qu'on peut faire, pas de chute, pas de choses qu'on doit dire, c'était mal. J'ai donné le maximum, mais ça c'est la chose plus importante aussi dans le sport. Moi j'ai donné toute la force sur tous les kilomètres de cette tour pour les deux. Je pense que je fais un grand travail, je pense que je fais un travail vraiment important. Et d'arriver jusqu'ici avec une situation comme ça, c'est sûr un grand travail de tout le monde, de l'équipe.
Et Fabian Cancellara a ajouté que ses batteries étaient capoutes. C'est valable pour l'ensemble des acteurs de ce Tour de France qui restera dans les annales.
On l'imagine. Le maillot à poids de meilleur grimpeur revient à l'Espagnol Samuel Sanchez et c'est un Français qui endosse le blanc de meilleur espoir. Il s'agit de Pierre Roland.
Et puis retour en Suisse avec 2 rencontres de Super League de football aujourd'hui. On commence avec la nouvelle défaite de Neuchâtel-Xamax 2-0.
Oui, face à Bâle, il faut tout de même dire qu'il s'agit d'une belle équipe. Alors reste à savoir comment s'est déroulé le match, parce que quand on ne peut pas s'appuyer sur le résultat, on aime bien s'appuyer sur la manière au moins. Et c'est vous, Alain Thévaux, qui nous en parlez.
Oui, les Neuchâtelois ont vécu un début de rencontre cauchemardesque avec une erreur de marquage après 1 minute et 24 secondes de jeu seulement et l'ouverture du score de Benjamin Hugel. Streller aurait même pu doubler la mise après 5 minutes de jeu, mais sa frappe a heurté le poteau droit de la cage de Jean-François Bédénic, surnuméraire il y a une semaine, gardien titulaire au Parc Saint-Jacques après le renvoi du gardien italo-brésilien Galato. Neuchâtel-Xamax a tenté de réagir, mais le mal était fait après le 2-0. Et la déviation subtile de Kovac à la 37e sur un corner de Shaqiri. Les Neuchâtelois occupent ce soir la position de lanterne rouge. Aucun but marqué, 5 encaissés après 2 journées. Carlao se trouve bien seul et impuissant à la pointe de l'attaque. Difficile dans ces conditions de sortir de cette spirale négative. Les Neuchâtelois digèrent mal la défaite. Il y a une semaine, les joueurs ne s'étaient pas présentés aux interviews en zone mixte. Aujourd'hui, les entraîneurs figuraient aux abonnés absents à la conférence de presse. C'est le capitaine Stéphane Bell qui s'est exprimé pour Neuchâtel-Xamax.
Et Alain Thévaux, juste avant ce match, vous avez rencontré le président de Neuchâtel-Xamax. L'interview ne tient donc pas compte de ce dernier résultat, mais Andrei Rodakov se défend des critiques émises depuis son arrivée et demande du temps pour construire. On ne fait pas une équipe en 2 jours, il est vrai. Andrei Rodakov.
Bon, on est raisonnable, on voit maintenant c'est les joueurs, les entraîneurs, ils travaillent bien et voilà, je répète encore une fois, il n'y a pas de miracle dans la vie, les certains joueurs ils sont juste arrivés maintenant.
Justement, il y a beaucoup d'inquiétudes, surtout à Neuchâtel, les Neuchâtelois qui disent qu'il y a un manque maintenant d'identité.
Et avant c'était quoi? Quand ils ont engagé, je ne sais pas, 10, 12 étrangers, c'était quoi? C'était Neuchâtelois qui a joué dans l'équipe? Je pose juste une seule question, combien de Neuchâtelois qui jouent dans l'équipe maintenant? Parce que moi, je peux juste dire une chose, qu'ils ont perdu pas mal de temps, et je répète encore une fois, seulement 1 ou 2 joueurs qui jouent, le joueur de Neuchâtel qui joue aujourd'hui. Ils ont loupé pas mal de temps pour construire l'équipe avec les joueurs de Neuchâtel. Maintenant, c'est pour critiquer, c'est tout le monde qui peut critiquer. Mais on a vu le dernier résultat, même on prend les derniers 10 ans, ils ont fait quoi?
Il y a quand même la méthode Tchétchène qui est nouvelle, qui inquiète.
Écoutez, ça c'est les méthodes, c'est pas le Tchétchène. Les méthodes, moi je peux dire, c'est si on n'a pas fait comme ça, peut-être nous on n'était pas où on est maintenant. C'est, je pense qu'on a changé, on a avancé. Pour avancer, qu'on ne perd pas le temps, il faut réagir vite, comme les médecins. Les gens, c'est qui nous critique, ils sont satisfaits avec les résultats, être relégables chaque année, c'est son problème. Nous, on est là pour construire. L'équipe, je pense, tout le monde qui a vu déjà, on a construit. Maintenant, c'est clair, il faut un certain temps pour que ça marche.
Ça veut dire quelle durée ?
On n'est pas un magicien. Si ça va marcher aujourd'hui, je dirais merci aux joueurs et au staff. Si on a besoin encore une semaine, mais nous, on est là pour construire, pas pour casser. On travaille 24 sur 24. Et encore une fois, j'aimerais remercier tout le monde qui est derrière le club.
L'objectif de cette saison, Andrei Rudakov ?
Première chose, c'est construire l'équipe avec les styles d'Extramax. Ici, on a une équipe qui joue au foot, le résultat est bien. On est les maximalistes, je pense. Aujourd'hui, si on a commencé à reconstruire l'équipe, on ne parle pas de maintien. Et après, les résultats, moi, je signe premier si cette année on va être champion. Mais bon.
La semaine prochaine, un certain match Xamax Sion, est-ce qu'il aura lieu ? Que pensez-vous de toutes ces histoires autour du FC Sion et de Christian Constantin qui refuse les convocations pour les matchs à l'extérieur ?
Écoutez, on a assez de problèmes à Xamax, je ne pense pas qu'est-ce qui se passe à Sion, j'ai essayé de régler chez moi.
Mais il y aura un match dimanche prochain à la Maladière ?
À Xamax, on est là. Hein.
Et l'autre rencontre du jour a vu la victoire de Thun face à Grasshopper 3-0. En Challenge League, un seul match aujourd'hui, Saint-Gall qui s'impose 4-2 face à Vaduz.
Et on passe à l'automobilisme et la victoire de Lewis Hamilton cet après-midi au Grand Prix d'Allemagne de Formule 1.
Le Britannique devance l'Espagnol Fernando Alonso et l'Australien Mark Webber, parti pourtant en pole position. Le Vaudois Sébastien Buemi signe le 15e temps. La victoire s'est jouée dans le dernier tiers de la partie, Mike Perez.
C'est vrai que les écarts étaient extrêmement serrés entre ces trois pilotes, entre Hamilton, Alonso et Webber. Il y a eu un chassé-croisé permanent en tête de ce Grand Prix. Et c'est véritablement lors du dernier changement de pneumatique que ça s'est joué. Lewis Hamilton a pu finalement ressortir en tête, juste devant Alonso et Webber. Ensuite, les pilotes ont assuré. Ils ont préféré figer les positions, ne pas prendre trop de risques. Et c'est donc une victoire pas étonnante, surprenante non plus, mais c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément de voir Lewis Hamilton aussi bien placé dans ce Grand Prix d'Allemagne, parce que les McLaren étaient en difficulté au début du week-end. C'est donc une belle revanche pour Lewis Hamilton.
On va préciser que l'Allemand Sébastien Vettel est quatrième. Il reste toutefois en tête du classement général des pilotes, mais quand même, une des choses qui frappe depuis quelques courses, c'est que les Red Bull ne gagnent plus après avoir pourtant dominé le début de saison. Comment ça s'explique ?
C'est difficile de donner une seule explication. C'est vrai que les autres écuries ont beaucoup travaillé pour essayer de rattraper le retard. Les Red Bull dominaient de la tête et des épaules les courses du début du championnat. Et puis, les autres écuries, elles se sont donc réveillées. Elles ont réussi à revenir petit à petit. Et elles sont sous pression, les deux Red Bull. Sébastien Vettel a commis une erreur. C'est plutôt rare de sa part. Il a commis une erreur aujourd'hui. Donc, il sent qu'il n'a plus la main mise sur le championnat. Il est toujours largement en tête. Mais il sent que les autres pilotes reviennent gentiment. Et finalement, ce championnat est plus serré qu'on ne pouvait l'imaginer il y a encore quelques semaines.
Ben voilà qui est plutôt prometteur pour la suite du championnat. Et en GP2, le franco-genevois Romain Grosjean a signé le quatrième succès de sa saison aujourd'hui. Un sprint couru sur le célèbre Nürburgring. Alors qu'hier, Romain Grosjean avait terminé sur la troisième marche du podium lors de la course principale. Et puis en tennis, au tournoi de Gstaad, finalement 5 Suisses sont engagés dans le tableau principal. Stanislas Wawrinka, qui sera exempté de premier tour. Et puis 3 autres Suisses qui bénéficient d'une wildcard. Il y a Stéphane Bolli, opposé à l'Espagnol tête de série numéro 8, Marcel Granollers. Michael Lamer, qui va au-devant d'un tirage difficile avec l'Espagnol Feliciano Lopez. Et Alexander Sadecki, qui sera opposé à un joueur qualifié. Et puis le Valaisan Yann Marti, 637e au classement ATP, a passé le cap des qualifications pour se retrouver dès demain dans le tableau principal.
Merci Laurence Bolomet. Vous nous présentiez le journal des sports.
18h58, c'est l'heure de la météo. Avec Stéphanie Collère.
La soirée sera fraîche, mais sèche. Demain, le temps sera changeant, avec de belles éclaircies en pleine, en matinée. L'après-midi, la nébulosité augmentera par l'ouest. En fin de journée, des précipitations pourront à nouveau tomber. La probabilité sera plus forte sur le Jura et les Préalpes. Les minima se situeront vers 9 degrés. Sur le plateau, il fera un maximum de 19. En Valais, le mercure pourra monter jusqu'à 22 degrés. Mardi matin, le temps sera sec, avec des éclaircies. Sinon, le ciel sera le plus souvent très très nuageux avec de possibles précipitations, plus probablement en montagne. La limite des chutes de neige se situera vers 2400 mètres. Les minima seront proches de 12 degrés. À cause du manque de soleil, les maxima se situeront entre 18 et 21 degrés. Le temps sera probablement frais et instable jusqu'à la fin de la semaine, avec toujours de possibles averses.
Infotrafic RSR
avec le Paléo Festival et la Mobilière, assurance et prévoyance.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, la voie de gauche est à présent dégagée entre Coppet et le pont sur la Versoie en direction de Genève. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, on roule à nouveau normalement à l'approche de l'entrée nord du tunnel de Saint-Gothard en direction du Tessin, tandis qu'en sens inverse, un bouchon de 3 km reste signalé entre l'aire de service de Stahlveldro et le portail sud de l'ouvrage en direction de Lucerne. C'est la fin de cette édition de Forum. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Bernard Pfulgue et Hervé Mermillot qui étaient ce soir à la technique. Merci à Patricia Mellan qui assurait l'édition de cette émission. Demain, 7h35, le journal du matin, notre invité sera Claude Ruet. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez rendez-vous avec Paradiso, mais pour l'heure 19h sur la première.